Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du vendredi 3 septembre 2014. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Georges Léonard Sagno. Bonjour Georges.
Bonjour Doyen, bonjour à tous.
Au sommaire de cette édition,
aux États-Unis, les autorités sanitaires fédérales et texanes sont à la recherche d'une centaine de personnes qui auraient été en contact avec le Libérien atteint d'Ebola.
Washington et Paris réaffirment leur engagement commun pour lutter contre les djihadistes à l'issue des entretiens du ministre français de la Défense et son homologue américain au Pentagone.
Au Nigeria, l'armée soutient qu'Aboubakar Shaku a été tué malgré une vidéo de Boko Haram publiée hier.
Au Burundi, le leader de la principale coalition d'opposition a été condamné à 1 an de prison hier.
À Hong Kong, les leaders des étudiants protestataires acceptent de rencontrer le chef de l'exécutif dont il réclame la démission.
Tandis que l'organe du PC chinois lance une mise en garde à Pékin. C'était le quotidien du peuple qui a lancé une mise en garde aux manifestants. Et ne manquez pas la musique de Roger Muntou et les sports en fin d'émission. Pour l'instant, le journal. Les autorités sanitaires du gouvernement fédéral et du Texas sont à la recherche d'une centaine de personnes qui pourraient avoir eu des contacts directs ou indirects avec le Libérien Thomas Eric Duncan, le premier porteur du virus Ebola à être diagnostiqué aux États-Unis. Mais le directeur des Centres pour le contrôle des maladies, Tom Frieden, est convaincu que la propagation de la maladie peut être empêchée.
Selon les mêmes autorités, aucune des 12 ou 18 personnes qui ont eu des contacts étroits avec le patient ne montre des symptômes de la maladie. Elles sont sous surveillance pendant 21 jours, la période d'incubation du virus Ebola. Parmi elles, des membres proches de sa famille qui ont été placés sous quarantaine pendant la même période.
Thomas Eric Duncan est dans un état sérieux mais stable dans une unité d'isolement d'un hôpital de Dallas. Au Libéria, les autorités comptent le poursuivre en justice pour avoir menti sur un formulaire qu'il a rempli à l'aéroport quand on lui a demandé s'il avait eu un quelconque contact avec une victime de l'Ebola. Il aurait répondu non, bien qu'il ait aidé une femme enceinte à prendre un taxi pour l'hôpital, puis à la ramener chez elle.
Alors que des millions de musulmans effectuent leur pèlerinage à la Mecque, plusieurs milliers de fidèles ouest-africains ne participant pas au Hajj de cette année, le gouvernement saoudien ayant interdit l'entrée sur son territoire aux ressortissants de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone, où l'épidémie d'Ebola a tué plus de 3000 personnes et infecté le double. L'interdit frappe aussi ceux qui ont visité récemment ces trois pays, où vivent quelque 13 200 000 musulmans.
Lutte contre le terrorisme dans le Sahel, Washington et Paris réaffirment leur engagement commun pour lutter contre les djihadistes. Hier, le secrétaire américain à la Défense, Chuck Hagel, a reçu au Pentagone son homologue français, Jean-Yves Le Drian, qu'on écoute.
Vous savez, au cœur de l'Afrique, de la Mauritanie à la Libye, les groupes terroristes d'inspiration djihadiste constituent une menace pour la sécurité des États de la région et pour l'Europe. Et dans cette zone, la coopération entre Africains, Américains et Français s'avère déterminante pour continuer de manière incessante à maintenir la pression sur les groupes comme Al-Qaïda au Maghreb islamique, Ansar Eddine, Al-Mourabitoun, qui continuent à vouloir revenir sur les terrains de leurs actions antérieures que l'opération d'intervention de la France avait permis de juguler.
Voilà, c'était Jean-Yves Le Drian au micro de Nicolas Pinault.
Au Nigeria, l'armée maintient sa position sur Aboubakar Shekau. Elle a répété hier que le leader autoproclamé de Boko Haram est mort. C'était en réaction à la publication d'une nouvelle vidéo dans laquelle un homme affirmant être Shekau dit qu'il est bel et bien en vie et que son groupe dirige un califat islamique dans les territoires qu'il contrôle.
Dans son communiqué, l'armée nigériane soutient que l'homme en question est en réalité un militant appelé Mohamed Bachir, qui a été tué le mois dernier lors de la bataille de Konnunga. Elle ajoute que la nouvelle vidéo obtenue par l'AFP ne contient aucune mention de la date à laquelle elle a été tournée, ni ne fait allusion à un quelconque événement survenu depuis la mort de celui qu'elle appelle l'imposteur. Shekao lui-même est mort depuis un certain temps déjà, affirme l'armée nigériane.
Au moins 13 soldats ont été tués et plus de 70 blessés dans deux attentats et des combats autour de l'aéroport de Benghazi, est dans des... entre des forces de l'armée libyenne et des milices islamistes, a signalé hier l'AFP qui cite des sources militaires. Deux voitures piégées ont explosé au passage d'un convoi de l'armée près de l'aéroport, faisant 3 morts et des blessés, selon un porte-parole des unités des forces spéciales de l'armée libyenne. Au moins 10 autres soldats ont péri dans des combats, également autour de l'aéroport, selon la même source, qui a fait état de 70 blessés transférés à l'hôpital d'Al-Marsh, à 100 km à l'est de Benghazi.
Un précédent bilan arrêté à la mi-journée faisait état de 7 morts et 62 blessés. Depuis le début du mois de septembre, les milices islamistes tentent de prendre le contrôle de l'aéroport qui comprend à la fois un aérodrome civil et une base aérienne militaire. Les accrochages sont quasi quotidiens entre les insurgés qui contrôlent la majeure partie de Benghazi depuis juillet et des membres des forces de sécurité loyales au général à la retraite Haftar.
Au Burundi, le leader de la principale coalition d'opposition a été condamné à 1 an de prison hier. Léonce Ngandakumana, qui était accusé de dénonciation calamiteuse contre le parti au pouvoir, parle d'une sentence politique. Les précisions de Félix Yepassis Zimbrou.
C'est une lettre adressée par Ngandakumana au secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, au mois de février, qui lui vaut cette sentence. L'opposant y accuse le CNDD-FDD, parti du président Pierre Nkurunziza, de préparer quelque chose de similaire au génocide rwandais de 1994. Il dénonce dans sa lettre ce qu'il appelle l'exploitation de la corde ethnique à des fins propagandistes. Le président de l'Alliance démocratique pour le changement, coalition de 9 partis d'opposition, y compare l'aile jeunesse du CNDD-FDD à la milice Hutu Interahamwe, qui avait joué un rôle clé dans le génocide rwandais. Léonce Ngandakumana, que cite l'AFP, a dénoncé hier sa condamnation, parlant de parodie de justice, de procès politique organisé pour l'éliminer du jeu politique avant les élections générales de 2015. Comparaissant libre, il a promis d'interjeter appel.
Pas de sommet des Nobel en Afrique du Sud sans le Dalai Lama. Les organisateurs de cette rencontre des prix Nobel de la paix ont décidé qu'il n'y aura pas de sommet dans la ville du Cap sans la présence du Dalai Lama, qui a été privé de visa. Idi Isango.
La décision a mis en colère les maires de la ville du Cap, Patricia Delille, qui est de l'Alliance démocratique, principal parti d'opposition à l'ANC au pouvoir en Afrique du Sud depuis 20 ans. Elle accuse le gouvernement sud-africain d'être responsable de ses ratés. D'après une dépêche de l'agence France Presse, Delille dit que des représentants du gouvernement sud-africain ont fait savoir aux représentants du Dalai Lama qu'aucun visa ne serait délivré pour la venue du leader spirituel tibétain au sommet du Cap cette année. Pour l'archevêque à la retraite Desmond Tutu, qui est aussi prix Nobel de paix 1984, l'attitude du gouvernement sud-africain équivaut à cracher sur le visage de Nelson Mandela, car les sommets devaient être dédiés à la mémoire du défunt dirigeant sud-africain. Les Dalai Lama avaient déjà été privés du visa d'Afrique du Sud 2 fois par le passé.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À Pékin, le quotidien du peuple, organe du PC chinois, a averti aujourd'hui les manifestants pro-démocratie que leur effort est voué à l'échec. Dans un éditorial à la une, il a répété la position du gouvernement selon laquelle les protestations sont illégales, écartant la possibilité de concessions concernant de plus grandes réformes démocratiques.
À Hong Kong même, les leaders du mouvement étudiantin de protestation ont accepté à la dernière minute de discuter avec le gouvernement pro-Pékin des moyens de résoudre la crise qui paralyse une bonne partie de la ville. Ils ont annoncé cette décision ce matin, quelques heures seulement après que le chef de l'exécutif, Long Chang-yung, eut offert de les rencontrer.
Mais en faisant cette offre, M. Leung a rejeté une demande clé des étudiants, c'est-à-dire sa démission. Les leaders des étudiants avaient menacé de prendre d'assaut les bureaux du gouvernement en cas de refus, mais à l'expiration de leur délai, on n'a pas fait état de violence près de ces bureaux qui sont encerclés par des foules d'étudiants et sous bonne garde policière. Ils espèrent que les pourparlers constitueront un tournant dans l'impasse actuelle.
En Turquie, le Parlement a autorisé le recours à la force en Syrie et en Irak. Ce vote pourrait permettre à Ankara de combattre les militants de l'État islamique qui s'approchent de la frontière turque. Il autorise aussi les forces étrangères à opérer à partir de la Turquie contre l'État islamique.
Les États-Unis dirigent une coalition de pays décidés à barrer la route au groupe et l'émissaire américain auprès de cette coalition anti-État islamique, le général John Allen, doit se rendre en Turquie dans le cadre d'une tournée dans la région qu'il a commencée hier en Irak. La pression s'est accrue ces dernières semaines en Turquie alors que les combattants de l'État islamique s'abattaient sur la ville frontalière kurde de Kobani où Ayn al-Arab, le responsable des forces de défense de cette ville du côté syrien de la frontière, a dit à la Voix de l'Amérique qu'un massacre à grande échelle était imminent sans l'aide internationale.
Les États-Unis ont partiellement levé l'interdit frappant depuis des décennies les ventes d'armes létales au Vietnam, une décision historique qui intervient presque 4 décennies après la fin de la guerre du Vietnam.
Selon le département d'État, il s'agit de permettre de futurs transferts d'équipements de défense concernant la sécurité maritime. La porte-parole Jen Psaki a ajouté que ces ventes visent au renforcement des capacités vietnamiennes en matière de surveillance maritime et qu'elles seront examinées au cas par cas. Le Vietnam fait face à des revendications territoriales chinoises de plus en plus agressives concernant d'importantes parties de la mer de Chine méridionale et ses ressources. Le sénateur John McCain, ancien prisonnier de guerre au Vietnam, a bien accueilli la décision, mais selon l'agence Reuters, il a appelé à l'amélioration de la situation des droits de l'homme par le gouvernement d'Hanoï.
La banque JP Morgan Chase a révélé hier que les comptes de plus de 76 millions de clients et entreprises ont été exposés à l'une des plus grandes attaques de l'histoire en matière de cybersécurité.
La première banque américaine en termes d'actifs a déclaré que leurs données ont été compromises l'été dernier, mais n'a révélé l'étendue de cette attaque que jeudi. Les officiels de JP Morgan Chase affirment n'avoir noté aucune fraude inhabituelle contre leurs clients depuis cette attaque et que leur argent est en sécurité. Autre cas où les informations concernant le crédit de dizaines de clients ont été volées ou piratées, les magasins Home Depot et Target. Voilà pour le journal. Merci à Georges Léonard Sagnon, Washington, La Voix de l'Amérique. À l'occasion d'une conférence sur la mobilisation internationale contre l'épidémie d'Ebola, la Grande-Bretagne s'est engagée jeudi à débloquer 160 millions d'euros pour aider la Sierra Leone. Jean-Roger Bion.
À Londres, le secrétaire du Foreign Office, Philippe Hammond, a martelé.
Well, we're at a tipping point in the management of this Ebola outbreak. We've got more than 20 countries coming.
Nous sommes à un tournant dans la gestion de cette épidémie d'Ebola. Plus de 20 pays se sont rassemblés ici et nous espérons que les engagements pris ce jour-ci nous permettront de contenir plus de 27 maladies. Mis à part une aide financière, la Sierra Leone a besoin de ressources sur le terrain, a-t-il poursuivi, notamment du personnel médical, des équipements et des moyens de transport. Le personnel soignant a été décimé par le virus à Ebola du fait qu'il soit au premier rang de la bataille contre l'épidémie, a souligné l'ONG Save the Children. Chaque heure, 5 personnes sont infectées par le virus en Sierra Leone, un chiffre qui pourrait doubler à la fin octobre, a-t-elle averti. La Grande-Bretagne, principal bailleur de fonds de la Sierra Leone, a pris la tête des efforts visant à lutter contre la crise dans ce pays, mais cette générosité pourrait s'avérer insuffisante. Dans un rapport publié lundi, des politiciens britanniques ont souligné que les réductions de l'aide internationale à la Sierra Leone et au Liberia ont compromis la lutte contre l'Ebola. Le département britannique pour le développement international avait prévu de réduire d'un cinquième son budget d'aide bilatérale aux deux pays entre les années fiscales 2013-2014 et 2015-2016.
En République centrafricaine, les musulmans ayant fui les attaques de Bangui ces 10 derniers mois commencent à revenir. Dans le quartier musulman du kilomètre 5, où leurs maisons ont été pillées et détruites, ils tentent, tant bien que mal, de refaire leur vie brique par brique. Voici un reportage de Katharina Hoij, présenté par Michel Joseph.
Ils étaient des dizaines de milliers à se réfugier au Cameroun et au Tchad lorsque les violences intercommunautaires ont éclaté à Bangui en décembre dernier. Certains reviennent chez eux au quartier kilomètre 5. C'est le cas de Moussa Hassan. Il avait mis 14 ans à construire une maison que les miliciens anti-Balaka ont détruite en quelques heures.
Et là maintenant, je recommence encore à zéro. On a construit la maison depuis 14 ans. Et là maintenant, on cherche à débuter encore pour avoir un peu de sous.
Hassan a laissé sa famille élargie, une cinquantaine de personnes, au Tchad.
Ouais, ma famille se trouve plus de 150 familles qui se trouvent au niveau de la frontière Tchado-Cameroun. Oui. Le vivre ici est très difficile.
La boutique où il vendait des briques et du ciment sur le marché du kilomètre 5 a elle aussi été pillée par les miliciens anti-Balaka. Le jeune entrepreneur cherche à reconstituer son stock. Il se dit qu'avec tant de bâtiments et de maisons détruites, il y a certainement de bonnes affaires à Bangui pour quiconque a le courage de rentrer. Son voisin, Mustapha Younous, est revenu il y a une semaine du Cameroun. Younous fouille les décombres de sa maison à la recherche de ce qu'il peut utiliser dans la nouvelle maison qu'il a trouvée dans un autre quartier de la capitale.
Oui, il y en a qui retournent avec un peu d'argent que leurs parents leur donnent. Il y en a comme celui-là, il est retourné sans rien. Comme mes deux frères-là, ils ont retourné sans rien. C'est grâce aux parents qui sont restés ici qu'ils ont eu un peu d'habits, un peu de choses pour survivre. Actuellement, il se trouve chez son grand frère. Donc son grand frère l'aide et puis il le nourrit. C'est tout.
La femme et les enfants de Younous sont encore au Cameroun. Il a besoin de leur obtenir un endroit sûr pour vivre avant de les ramener. Au lendemain de son retour, deux musulmans ont été tués non loin de là, preuve que la violence persiste. Les chauffeurs de taxi refusent de prendre des clients sur la route principale du quartier kilomètre 5, considérée comme trop dangereuse. Au moins 400 maisons ont été détruites au kilomètre 5. Younous dit que les personnes qui reviennent reçoivent peu d'aide du gouvernement.
Plus de 400 maisons qui ont été détruites comme ça. Voilà, depuis les événements du 5 décembre, les habitants du quartier ont fui le quartier. Et c'est comme ça, les anti-Balaka sont venus, ils sont rentrés, ils sont tout cassés.
Malgré tout, il vaut mieux revenir que vivre dans un camp de réfugiés, dit Younous. Les violences ont déplacé près d'un million de personnes en RCA ou vers les pays voisins.
Au Mali, 15 contrats d'achat d'armement annulés par le ministre de la Défense, 30 milliards de francs CFA de surfacturation. Cela fait suite à la mission du Fonds monétaire international au Mali. Les organisations de la société civile demandent plus d'éclaircissements autour des surfacturations et des passations frauduleuses des marchés au niveau du ministère de la Défense. Pour certains membres de la société civile, le président malien doit expliquer comment tout cela est arrivé en moins d'un an de gestion du pouvoir. Kassim Traoré nous en dit plus sur les réactions des acteurs de la société civile.
Pour satisfaire la demande du FMI, le ministre de la Défense et des anciens combattants du Mali a annulé 15 contrats d'achat d'armement des fournisseurs. Bandao, ministre de la Défense et des anciens combattants du Mali.
Des contrats ont été annulés conformément à certaines instructions provenant d'un état de fait connu de tous. Notre métier nous impose de la boucler, mais quand il y a nécessité, on essaie de donner le minimum Ne vous attendez pas à ce qu'on fasse de longs développements pour certaines choses, ce soit par oui, ce soit par non.
Une semaine après la mission du FMI au Mali, les acteurs de la société civile donnent de la voix. Ils dénoncent les fraudes, les magouilles et surfacturations dans l'achat des armes pour les militaires maliens. Bakary Doumbia, de la Fédération des organisations de la société civile du Mali.
Si les autorités sortent du cadre orthodoxe pour pouvoir faire des dépenses au nom du peuple, il était séant que les acteurs de la société civile puissent se prononcer davantage sur la question. Dans cette situation de crise, il est malheureux que de telles situations arrivent. Il faut qu'on le dise. On est en pleine crise et les gens trouvent le moyen de signer des contrats avec des surfacturations énormes. Ça, c'est honteux pour le pays. C'est honteux pour les Maliens, c'est honteux pour le gouvernement, c'est honteux pour le pays.
Les porte-parole de la société malienne ne sont pas contre cette visite du Fonds monétaire international au Mali.
C'est Kamala Dravé, de la société civile. Bon, le FMI est bien dans son rôle, compte tenu du fait que nous coopérons ensemble depuis plus de 30 ans. Le FMI sent qu'il y a des malversations dans notre façon de gérer les finances publiques. C'est normal qu'il intervienne. Et l'essentiel est que le gouvernement du Mali arrive à corriger ces erreurs-là et à éviter que des situations comme ça ne se reproduisent plus.
Nous avons su que certaines personnes ne sont pas vraiment dignes de confiance et ça c'est très important. Cela nous a vraiment fait un peu mal du fait que c'est nos gens à qui nous avons eu confiance. Mais c'est une bonne chose aussi de savoir que vraiment certaines personnes ne veulent pas vraiment le bonheur du Mali.
Bakary Doumbia dénonce par contre le silence radio des organisations de la société civile sur les malversations au sommet de l'État.
Apparemment, il semble avoir trouvé avec le gouvernement une solution, ce qui est heureux pour l'ensemble du Mali. Mais les leçons qu'on peut tirer, c'est d'abord, moi je suis de la société civile, je le dis par rapport à la société civile, je crois que les acteurs de la société civile ont été muets sur la question. Et ça, c'est pas bon pour un pays. Et nous espérons, et nous avons espéré que le président de la République prendra la disposition, comme ça a été demandé par le FMI, de faire prendre des sanctions contre les personnes qui ont été à l'origine de ces surfacturations.
Avant de quitter Bamako, la délégation du FMI a demandé des poursuites judiciaires contre tout ce qui serait à la base des surfacturations dans l'achat des armements pour le Mali. L'État va-t-il exécuter cette recommandation? Wait and see. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
À l'instar d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, le Niger célébrera dimanche la Tabaski, l'une des deux grandes fêtes musulmanes. C'est une fête au cours de laquelle les fidèles doivent immoler un bélier pour imiter le sacrifice d'Abraham et chercher ainsi la bénédiction divine. À deux jours de cette fête, notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa, est allé dans les marchés à bétail pour s'enquérir des prix du mouton. Voici son reportage.
Contrairement aux années précédentes, sur les marchés, les prix du bélier préféré pour cette fête sont abordables cette année. Et pour cause, il y a eu moins d'exportation du bétail vers les pays frontaliers.
Le prix, vraiment, c'est un peu bon. Il y a beaucoup de moutons, vraiment.
Pour le mois, j'ai acheté les Camerou 1, 21 000. J'ai demandé les moutons. Il a dit le prix, il est baissé. Il a dit c'est combien. Il a dit jusqu'à venir les jours qu'il a bas les moutons, quand le prix baissé pour moi.
Ah, cette année, le prix est abordable. Parce qu'on peut trouver des moutons de 25 000, 30 jusqu'à 50 pour les petits pauvres.
Et on constate aussi qu'ils sont nombreux sur le marché. Est-ce qu'on vous a dit pourquoi cette année?
Bon, c'est un peu nombreux parce qu'il n'y a pas de sortie cette année. Et c'est pour ça que ça devient moins cher.
Et vous avez déjà acheté?
Oui, j'ai acheté.
À combien?
À 30 000.
Un mouton, il est grand, il est bon?
Ah, il est abordable. Il est abordable.
Merci. Il y a tout de même quelques exceptions, témoigne ce revendeur rencontré dans une des nombreuses rues de la capitale Niamey.
Maintenant, même si tu veux 40 000, 50 000, 60 000, 75 000, 70 000, 100 000, jusqu'à 200 000. Mais n'est pas pris que 200 000. Le montant de prix, c'est 200 000. Parce qu'avant-hier même, je suis là-bas et on a payé. Il y a un gars qui est venu pour acheter deux moutons. Il a demandé 300 000 francs. Les gars, le propriétaire, il a refusé. Il a dit que moi. Même hier, il y a quelqu'un qui a demandé 320 000 francs comme ça. Il a refusé. Donc, c'est bon, moi.
Certains revendeurs préfèrent, eux, circuler avec leurs marchandises dans la ville qui s'anime déjà à deux jours de la fête de Tabaski. Il faut le préciser ici. Beaucoup attendent la veille de la fête. Peut-être que les prix des moutons vont encore baisser. Beaucoup attendent surtout la veille pour éviter les voleurs dont c'est aussi une période propice. Abdullah Razak Idrissa à Niamey pour la Voix de l'Amérique.
À présent, les sports avec Timothée Donangmaï. Commençons par le football européen avec la deuxième journée de la Ligue Europa, jouée hier soir.
Dynamo Moscou a défait PSV Eindhoven 1-0. Dynamo Kiev a battu Steaua Bucarest 3-1. Un but partout dans le match Krasnodar-Everton. Dynamo Minsk défaite sur sa pelouse par Fiorentina 3-0. Victoire de Naples sur Bratislava 2-0. Sparta Praha victorieux des Young Boys 3-1. Et Lokeren a défait Metalist 2-1.
Bonne et mauvaise nouvelle sportive en provenance du Burkina Faso.
Commençons par la bonne nouvelle avec cette décision du gouvernement du pays des hommes intègres d'accorder un chèque mensuel au club de football d'élite. Les précisions de notre correspondant sportif à Ouagadougou, Salif Kabouré.
Pour pallier aux difficultés financières que connaissent les clubs de première division au Burkina Faso dans le paiement de leurs joueurs, le gouvernement du Burkina Faso va reverser à chacun d'eux la somme de 1 500 000 francs CFA par mois. Cette somme servira donc à prendre en charge 20 joueurs par club. Un ouf de soulagement pour le Canot du Sud, un club de Ouagadougou qui vient de monter en première division, qui avait en projet pour la nouvelle saison un budget de 25 millions de francs CFA. Bernard Nari est le secrétaire général du club.
25 millions, vous voyez que c'est vraiment dérisoire. On avait déjà des problèmes.
L'équipe championne du Burkina, l'étoile filante de Ouagadougou avec un budget annuel de 160 millions de francs CFA, salue cette initiative qui vient à point nommé. Moustapha Dektounda, président de la section football de l'étoile filante de Ouagadougou.
C'est vrai, le football ne nourrit pas son homme au Burkina, mais lorsque vous prenez un engagement avec un joueur, il a droit à un salaire, il a droit à des primes de match. Et si vous n'arrivez pas à respecter ces engagements-là, quelque part ça ne va pas.
En somme, ce sont plus de 2 milliards de francs CFA que l'État burkinabé va injecter dans le salaire des joueurs burkinabés de première division cette saison à travers le prélèvement des taxes sur les téléphonies mobiles opérant sur le territoire national. Ouagadougou, Salif Kabouré.
On passe maintenant à la musique de Roger Muntu. Bonjour Roger.
Bonjour Idrissa. Certains grands de la musique africaine, Chuck Tidiansek, Oumou Sangaré, Mokobé et Mori Kanté, sont au studio à Paris pour composer une chanson entraînante face à l'épidémie meurtrière d'Ebola. Ils participent de façon originale aux efforts de sensibilisation et de la lutte contre le virus. Oumou Sangaré était l'invité de RM Show.
Allô ?
Allô, Oumou Sangaré, vous êtes en direct sur la Voix de l'Amérique, service francophone. Comment ça va, Oumou Sangaré ?
Oui, ça va bien, merci. Et vous ?
Quel honneur, quel plaisir, Oumou Sangaré, de vous parler en direct.
C'est bien partagé, le plaisir est bien partagé.
C'est pas chaque jour, c'est pas chaque jour qu'on a tous ces grands dans un studio et qu'on peut les avoir comme ça.
Vous êtes avec le maestro, le grand frère.
Oumou Sangaré, alors on nous dit ça va très bien, merci. Oumou, on nous dit que Oumou Sangaré va mettre sa voix dans cette belle chanson-là, Oumou Sangaré.
Tout à fait, c'est normal. Ça nous concerne tous.
Et pourquoi c'est aussi important aussi pour Oumou Sangaré?
Oui, c'est important parce que on sait que notre voix peut vraiment sensibiliser, peut aider notre population vraiment à prendre la situation très au sérieux. Donc voilà pourquoi on s'aimait. Quand mon frère m'a appelé, quand Cheikh m'a appelé, je nécessaire de participer parce que c'est vraiment c'est une cause noble.
Eya dugu jabaye korogoye dugu jabaye o
Eya dugu jabaye
korogoye dugu jabaye Eya dugu
jabaye
anye dugu jabaye o Eya dugu jabaye korogoye dugu jabaye Kaimala korogoye dugu jabaye a korogoye nyemo emba
Oumou Sangaré Koroko. Merci Roger.
De rien Idrissa, bonne journée à vous et merci à tous nos auditeurs de Conakry pour leur fidélité à la VOA.
Retrouvez Roger Muntu dans le RM Show à 20h temps universel.
Jenin tere dugu jabare ala taburu lai dugu jabatu
Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique en direct de Washington. Eh bien, c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Georges Léonard Sagnot pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de la Voix de l'Amérique.